VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 1er décembre 2022. Coupe du monde de football, le Maroc a validé son ticket pour les huitièmes de finale en battant le Canada 2-1. En RDC, manifestation populaire contre le M23 et l'inaction de la communauté internationale. Le Burkina Faso demande à la France des armes et des munitions pour les supplétifs de l'armée. Le président sud-africain menacé d'une procédure de destitution. Égalité maintenant, c'est le thème choisi cette année pour la journée mondiale du sida célébrée aujourd'hui.
Il y a une voisine qui est venue le lendemain, tiens maman, que mais quand tu peux accepter une personne qui vient avec le VIH, j'ai eu mal. J'ai dit non, il faut que je lutte, il faut que je milite vraiment.
Des reportages aux quatre coins du monde à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a déployé aujourd'hui toute la pompe d'une visite d'État en recevant à la Maison-Blanche Emmanuel Macron. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Maroc et la Croatie, vice-championnes du monde sortantes, se sont qualifiées ce jeudi pour les huitièmes de finale du Mondial 2022, auquel ne participera pas la Belgique pour leur plus grosse déception des phases de poule.
Tout à fait Jean-Roger. Les Lions de l'Atlas, surprenant premier du groupe E, joueront les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Le Maroc devient donc la deuxième équipe africaine à franchir la phase de poule dans ce mondial de Qatar 2022. Je suis en ligne avec Karim Ben Amor, journaliste sportif à Tunis. Karim, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Le grand jour pour le Maroc et pour l'Afrique, n'est-ce pas ?
Oui, absolument, très très grand jour. Hein. En plus, excusez-moi, vous avez évoqué tout à l'heure que le Maroc ne s'est plus qualifié au huitième de finale depuis 36 ans. Eh bien, sachez que je pense que c'est pour la première fois qu'une nation africaine termine avec 7 points. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, et que dire, avec 50 000 Marocains dans les tribunes ce soir, le Maroc a vraiment fait le show.
Le Maroc a battu le Canada 2-1 pour se qualifier. Tarsis Alelimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du football, est également en ligne avec nous. Le Canada n'a pas démérité dans cette rencontre malgré son jeu passionnant. Et puis bagage, Tarsis.
Oui, je pense que le Canada n'a pas démérité, c'est vrai, surtout en deuxième période, mais le Canada est éliminé, non pas par le Maroc, mais par le faux pas qu'ils ont fait face à la Croatie. C'est la Croatie qui élimine le Canada, à mon avis.
Un mot sur le Maroc ?
Ben, le Maroc, c'est un bon match, surtout pour Hakim Ziyech. La paire de Chelsea, meilleur joueur de l'histoire du football néerlandais, comme meilleur passeur en national qui préférera jouer pour le Maroc et non pas pour les Pays-Bas.
La Belgique éliminée dès le premier tour, les Diables Rouges ont buté sur la Croatie, mais Dieu n'était pas du côté de Bruxelles ce soir, Tarsis.
Oui, Lukaku a perdu, n'était pas vraiment avec les dieux du foot, mais il faut dire que, encore une fois, celui qui a éliminé la Belgique, ce n'est pas la Croatie, c'est encore une fois le Maroc, le match qu'ils ont mal entamé. Et sachez que dans ce groupe, quand même, la Belgique est troisième devant le deuxième en 2018. Face à la France, la Croatie avait joué la finale quand même.
Karim, le Maroc et la Belgique s'ajoutent à d'autres surprises qui pourraient bien secouer cette Coupe du Monde si atypique, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Et il faut signaler aussi, vous avez tout à l'heure évoqué Hakim Ziyech, hein, qui a ouvert le score aujourd'hui, qui a débloqué dès la quatrième minute. Autant signaler tout de suite le courage de Walid Regragui, qui a rappelé Hakim Ziyech, qui a rappelé Amrabati et qui a fait fédérer tout un groupe. Maintenant, mardi prochain, le Maroc va disputer les huitièmes de finale et peut-être que le destin va lui donner une revanche par rapport à 86 avec peut-être l'Allemagne, donc un remake de 1986, les huitièmes de finale où il avait été éliminé à l'époque par Hansi Müller. On souhaite que le Maroc aille loin.
Tarsis, en quelques secondes, tous les regards seront en particulier tournés ce soir vers Costa Rica-Allemagne, qui, pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde masculine, sera arbitrée par une femme, la Française Stéphanie Frappard, sera au sifflet.
Oui, ça c'est important pour le football mondial. On a vu des juges femmes, des juges de touche, mais pour la première fois, une dame va officier et en grand match. Évidemment, l'Allemagne est en train aussi de trembler parce que ce n'est pas un match facile.
Ce n'est pas un match facile parce que l'Allemagne doit absolument gagner et les Espagnols n'ont besoin que d'un nul contre le Japon. En tête du groupe E avec 4 points, ils sont en ballotage très favorable. Jean-Roger.
L'actualité de la Coupe du Monde, c'était avec Eric Manirakiza. Dans le reste de l'actualité, les forces armées de la RDC ont accusé dans un communiqué les rebelles du M23 et leurs alliés d'avoir tué 50 civils. Le massacre a eu lieu, selon l'armée, dans la ville de Kishishe, dans l'est du pays. Human Rights Watch et une diplomate américaine ont confirmé aujourd'hui cette tuerie de masse à Kishishe, mais n'ont fourni aucun bilan. Nous sommes profondément attristés par le massacre de civils qui pourrait constituer un crime de guerre, a déclaré Stéphanie Millet, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa sur Twitter. Cela dit, plusieurs personnes ont manifesté ce jeudi dans l'est de la RDC contre la communauté internationale accusée d'inaction face à la rébellion du M23 alors que les combats ont repris entre ce groupe et l'armée congolaise. Des manifestants et des journalistes disent avoir été malmenés par les forces de l'ordre ce matin à Goma lors de cette marche. Nani Talani.
Une centaine de manifestants ont marché à Goma à l'appel d'une synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Ils clamaient notamment « la MONUSCO doit partir », non à l'embargo contre la RDC, non à la complicité internationale contre la RDC. Ils mettaient aussi en garde contre la participation de l'Ouganda, dont ils se méfient presque autant que du Rwanda, à la force régionale est-africaine en cours de déploiement pour lutter contre les groupes armés. Les manifestants reprochent aux pays occidentaux et à l'ONU de ne pas condamner l'agression dont la RDC est victime et de maintenir pour ce pays un système de notification préalable à l'achat de certains types d'armes, ainsi assimilable selon eux à un embargo. Ils souhaitent la levée de l'embargo contre la RDC pour que celle-ci se dote des armes nécessaires. La police est intervenue pour disperser ce rassemblement qui n'avait pas été autorisé par la mairie. Un reporter photographe a été légèrement blessé à la main et son matériel endommagé. Pendant ce temps, des combats à l'arme lourde ont repris ce jeudi dans l'est congolais entre les rebelles du M23 et les FRDC après 5 jours d'une petite trêve. Une source sécuritaire sous couvert d'anonymat accuse les rebelles du M23 d'avoir violé le cessez-le-feu. Le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a confirmé ces combats à l'AFP.
Une bagarre entre députés a éclaté ce jeudi au Parlement sénégalais après des propos controversés d'une élue du pouvoir sur un chef religieux, membre de l'opposition. Un député de l'opposition a d'abord giflé cette parlementaire, Amine Diaye, qui a riposté en lui lançant une chaise avant de tomber à terre et d'être secouru par ses partisans, selon des images diffusées sur plusieurs chaînes de télévision et les réseaux sociaux. Des parlementaires ont ensuite échangé des coups de poing dans la cohue. La séance de ce jeudi a été interrompue après l'incident. Le premier ministre burkinabé Apollinaire Kelem de Tambela a demandé à la France des armes et des munitions pour les supplétifs de l'armée qui l'aident dans sa lutte contre les djihadistes, selon un article de son service de communication. Le point avec Rosine Monizero.
Lors d'une rencontre mardi avec Luc Rallade, ambassadeur de France au Burkina Faso, le Premier ministre a souligné que les efforts des partenaires doivent se focaliser sur les aspirations profondes du peuple burkinabé, un peuple engagé à se défendre pour la liberté, contre la barbarie et le terrorisme, indique cet article. Aux inquiétudes de M. Rallade quant à l'impossibilité pour les ONG françaises installées au Burkina Faso de se déplacer sur le terrain pour leurs activités, M. Kielem de Tambela a répondu « C'est la raison pour laquelle vous devez nous aider à avoir le matériel nécessaire pour venir à bout du terrorisme. Les Burkinabés cherchent une boue de sauvetage pour leur pays et si cette boue de sauvetage doit venir d'un autre pays autre que la France, pourquoi pas » a-t-il ajouté. À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur français a estimé que tout le monde avait intérêt à ce que le Burkina en proie à la violence djihadiste, reste debout.
En Afrique du Sud, les hauts responsables du parti au pouvoir, l'ANC, ont annoncé aujourd'hui se réunir demain vendredi en urgence pour discuter du sort du président Cyril Ramaphosa. Ce dernier est sous pression avec la menace d'une procédure de destitution après la publication d'un rapport parlementaire accablant. Le point avec Michel Joseph.
Le chef d'État doit faire une déclaration ce jeudi, annonce le porte-parole de Cyril Ramaphosa. Hier, la publication du rapport d'une commission indépendante désignée par le Parlement a conclu que le président a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre d'un scandale. En février 2020, des cambrioleurs se sont introduits dans une de ses luxueuses propriétés dans le nord-est du pays. D'importantes sommes en liquide ont été retrouvées sous les coussins d'un canapé. Une plainte déposée en juin l'accuse de ne pas avoir signalé l'incident ni à la police ni au fisc. M. Ramaphosa nie, mais le rapport remis au Parlement met en doute les explications données par le président sur la présence de plus d'un demi-million de dollars chez lui. Les conclusions de la commission ouvrent la voie à une procédure en vue d'un éventuel vote pour la destitution du président. Le Parlement se réunit mardi prochain en séance extraordinaire pour débattre. L'ANC se réunit mi-décembre pour désigner son prochain leader. Le vainqueur sera candidat à la présidentielle de 2024.
Toujours en Afrique du Sud, la remise en liberté de l'assassin de la figure anti-apartheid Kristani a été reportée après que ce militant d'extrême droite a été poignardé en prison. Janusz Walus, 69 ans, un immigré polonais lié à l'extrême droite blanche africaine, avait été condamné à mort, puis à la prison à vie. Des centaines de personnes répondant à l'appel du Parti communiste de l'ANC avaient manifesté à Pretoria contre cette libération annoncée. Le pape François se rendra en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Début 2023, le pape sera en RDC du 31 janvier au 3 février, puis passera deux jours au Soudan du Sud.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont fait état aujourd'hui à Washington de la solidité de l'alliance entre les États-Unis et la France, présentée comme deux nations sœurs dans leur combat pour la liberté. Jacques Aristide.
Les États-Unis ne pourraient pas demander de meilleurs partenaires avec qui travailler que la France, a déclaré le président Joe Biden lors d'une brève déclaration en soulignant que l'alliance avec la France demeurait essentielle. Notre destin commun est de répondre ensemble aux défis du monde, a dit de son côté Emmanuel Macron. Il est d'avis que Paris et Washington doivent redevenir frères d'armes face à la guerre en Ukraine et aux crises multiples. Les deux pays sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles, a-t-il ajouté. Le chef de l'État français et son épouse Brigitte Macron ont été accueillis en grande pompe à la Maison-Blanche aujourd'hui par le président Joe Biden et la première dame Jill Biden, avec tout l'apparat associé à une visite d'État. Coup de canon et hymne nationaux à son arrivée, réunion au coin du feu dans le bureau ovale, conférence de presse commune et dîner de gala, tout a été soigneusement calibré pour afficher la bonne entente. Emmanuel Macron est le premier à qui l'actuel locataire de la Maison Blanche réserve un tel traitement depuis son investiture en janvier de l'année dernière.
L'armée ukrainienne a indiqué aujourd'hui que la Russie avait retiré une partie de ses troupes des villes situées sur la rive orientale du Dniepr en face de la ville de Kherson. Il s'agit de la première communication officielle de l'Ukraine faisant état d'un retrait de troupes russes sur ce qui constitue désormais la principale ligne de front dans le sud du pays. Les autorités ukrainiennes ont également indiqué que la Russie avait intensifié ses bombardements visant la rive occidentale du Dniepr, provoquant de nouvelles coupures d'électricité à Kherson, où le courant avait été rétabli près de trois semaines après le retrait des forces russes. Et puis, les désastres naturels et sinistres provoqués par l'homme ont fait pour 268 milliards de dollars de dégâts depuis janvier, un peu moins qu'en 2021, malgré les ravages de l'ouragan Ian aux États-Unis et à Cuba. Et après les nombreux orages et tempêtes de grêle plus ou moins violents aux États-Unis, la France aussi a connu la série d'orages de grêle la plus grave jamais observée, avec des pertes assurées estimées à 5 milliards d'euros selon l'étude. Ne partez nulle part, dans quelques instants, les magazines consacrés à la journée mondiale de la lutte contre le sida. A tout à l'heure.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. C'est aujourd'hui le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 38 millions de personnes vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, à la fin de l'année 2021. Il n'existe aucun remède contre l'infection par le VIH. Cependant, les experts affirment que des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à prévenir sa transmission. Mais l'adhésion au traitement reste un défi pour de nombreux patients. Mise en perspective, Dilidico.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, à la fin de l'année 2021, environ 38 millions de personnes vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Il n'existe aucun remède contre l'infection par le VIH. Cependant, les experts affirment que des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à prévenir sa transmission. Mais l'adhésion au traitement reste un défi pour de nombreux patients.
Écoutons le docteur Wangi Kamao, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Kenyatta.
ART est un traitement à vie. Vous devez prendre les médicaments tous les jours, vous devez être inlassable, vous devez prendre ces médicaments sans relâche tous les jours. Et certains patients éprouvent une lassitude vis-à-vis des médicaments. Ils finissent par avoir un certain dédain à l'égard de ces médicaments et ils sont également confrontés à une forte stigmatisation à cause du VIH.
Au fil des années, les progrès de la médecine ont permis aux gens d'avoir plus de choix en matière de prévention et de traitement. Parmi ceux-ci figure le cabotegravir, injectable à action prolongée, utilisé pour la prévention et le traitement du VIH. Des pays africains comme le Zimbabwe ou l'Ouganda ont approuvé l'utilisation de ce médicament injectable. Selon les scientifiques, ce médicament pourrait contribuer à améliorer l'adhésion des patients au traitement car il est facile à utiliser.
Kaniswa Kwacha est une patiente prenant la pilule PrEP.
Je suis très heureuse de passer des pilules PrEP aux injectables. C'est une superbe évolution car avec les pilules PrEP, je dois me rappeler qu'aujourd'hui, il faut que je prenne les cachets avec moi. Je travaille dans une clinique mobile, je rentre parfois très tard chez moi et je dois quand même prendre mes pilules PrEP. Je sais que le traitement injectable est dans mon corps, je me déplace avec l'injection au lieu de marcher avec le bruit des pilules. Du coup, oui, je suis très heureuse.
Si les progrès de la médecine ont amélioré la vie des personnes séropositives, l'ONU-SIDA signale que les inégalités provoquent une augmentation des nouvelles infections et que des personnes continuent de mourir faute d'accès aux services de prévention et de traitement dont elles ont besoin. Selon l'OMS, plus de 18 millions de personnes sont sous traitement à vie contre le VIH dans le monde, mais un nombre quasi égal de malades n'a pas accès au traitement.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires veulent pousser pour l'égalité conformément au thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Notre correspondante à Abidjan est allée à la rencontre d'une association de femmes vivant avec le VIH qui privilégie l'action communautaire. Reportage Delphine Bouise.
Dame Alice est membre du réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH. La cinquantaine révolue, elle est déclarée séropositive depuis 1997. Cela fait 24 ans. Elle a vécu un calvaire et milite maintenant pour sauver des vies humaines.
j'accepte d'aller faire une émission avec Bamba Youssouf. Et quand c'est sorti, vraiment c'était difficile pour moi. Jusqu'à il y a une voisine qui est venue le lendemain, dit à maman que mais comment tu peux accepter une personne qui vient avec le VIH? J'ai eu mal. J'ai dit non, il faut que je lutte, il faut que je milite vraiment. Voici d'où est sorti mon engagement dans la lutte. Et depuis lors, j'ai accepté de faire le témoignage parce que je me dis, à travers moi, à travers mes messages, ça va sauver des vies. Je ne suis pas fière d'être infectée, mais je suis fière de pouvoir sauver des vies.
À l'ONG Femmes Actives, nous retrouvons un couple et leurs deux enfants qui sont tous atteints du VIH. Ils habitent un quartier précaire de l'une des communes d'Abidjan. L'épouse explique les difficultés de cohabiter avec les autres à cause des nombreux préjugés.
Chacun a ses enfants. On ne peut pas connaître dans le cœur de tout et chacun. Donc, oui, je suis là, je ne sais pas si aujourd'hui je m'en vais leur dire. Ils vont dire tout n'est pas que ça arrive aussi à leurs enfants.
Le couple et leurs enfants bénéficient du soutien de l'ONG et reçoivent leur traitement du centre de santé partenaire, loin des regards indiscrets. Leur petit garçon de 8 ans, bien que n'étant pas informé de son statut, il n'ignore cependant pas sa routine quotidienne. Fatoumata Traoré, conseillère communautaire, explique la prise en charge au niveau des enfants orphelins est rendue vulnérable du fait du VIH.
Les OEV, généralement, ce sont des enfants de 0 à 17 ans que nous prenons en charge. Ce n'est pas forcément tous les enfants infectés. Il y a les enfants affectés, puisque dans la famille, il y a un peu de VIH.
Au sein du RIPO+, l'action communautaire est prioritaire, nous confie Dame Alice.
Nous faisons la prise en charge psychologique de cette personne-là. Ça, c'est la première des choses. Il faut partager ton expérience de vie avec la personne. Il faut l'encourager à accepter de faire le test de dépistage et faire le suivi dans la communauté, qui est très important. Et il y a aussi des soutiens que nous apportons à travers les kits alimentaires, les différentes orientations que nous faisons. Les conseils que nous pouvons donner, c'est d'accepter mon statut psychologique. Parce que tout se passe dans la tête. Hein.
En Côte d'Ivoire, depuis 2008, l'accès au traitement antirétroviraux est gratuit. Le gouvernement mise sur la sensibilisation des jeunes à zéro transmission mère-enfant. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Quelle est la situation concernant la lutte contre le VIH-Sida au Mali? Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Sous le régime de feu Amadou Toumani Touré, la journée internationale de lutte contre le sida ne passait pas inaperçue. Le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, alors présidé par Malick Senne, organisait des cadres de rencontres pour parler de la maladie et des actions entreprises pour y faire face. Ce jeudi, il est prévu une conférence de presse pour communiquer les chiffres. Selon les chiffres de l'ONU-Sida, au Mali, le taux de prévalence est passé de 1,7 à 1,1% dans la population. Dans une interview, Dr Bintou Dambélé, directrice exécutive de Arcade-Sida, disait que cette baisse ne se répercute pas au niveau des populations clés pour le succès de la lutte contre le VIH, à savoir les groupes vulnérables et marginalisés, comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses du sexe, les usagères et usagers de drogues injectables. Selon elle, le taux de prévalence de ces groupes sont respectivement de 13,7%, 24,2% et 5,1%. À l'heure actuelle, on estime à 50 000 environ le nombre de personnes vivant avec le VIH au Mali et 30 000 d'entre elles bénéficient d'un traitement antirétroviral. Selon le projet Atlas, Bamako aurait le taux de prévalence le plus élevé, suivi de Ségou et de Koulikoro. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA VOA Afrique dans tout le continent africain sous la chaîne 555 de Canal.
En Afrique du Sud, pays qui compte le plus grand nombre de séropositifs au monde, les autorités affirment que les filles et les jeunes femmes sont désormais les groupes démographiques les plus à risque, nombre d'entre elles ayant eu recours au sexe transactionnel ou commerce du sexe pour payer les factures pendant les confinements liés à la pandémie de COVID. La VOA s'est entretenue avec une ancienne travailleuse du sexe et a visité une clinique qui traite des adolescentes et d'autres personnes vivant avec le VIH. C'est un reportage de Kate Bartlett depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, rendu par Nadine Talani.
Cette Sud-Africaine de 31 ans, qui ne souhaite pas utiliser son nom en raison de la stigmatisation, a été travailleuse du sexe pendant plus d'une décennie dans le quartier notoire de Hillbrow à Johannesburg. En 2020, alors qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts pendant les confinements liés à la pandémie de COVID, un client qui refusait d'utiliser un préservatif lui a transmis le VIH.
Je me fâche parce que les hommes ne veulent pas écouter. Puis nous nous faisons aussi violer. Lorsque vous vous faites violer et vous vous rendez compte que vous êtes séropositif, alors vous pouvez vous mettre davantage en colère. Parfois, cela me risque.
Une étude de l'ONU-SIDA a révélé cette année que depuis le début de la pandémie, 38% des femmes sud-africaines qui vendent ou échangent des services sexuels ont signalé une forte baisse de leurs revenus et 5% de plus de travailleuses du sexe se sont livrées plus fréquemment à des rapports sexuels sans préservatif. Anne Guitoukouchongwe est la directrice régionale d'ONU-SIDA pour l'Afrique orientale et australe. Elle affirme que 63% des nouvelles infections à VIH en Afrique concernent des jeunes femmes et des adolescentes.
Les adolescentes âgées de 15 à 24 ans représentent à peine 30% des personnes séropositives, mais les femmes de 24 à 49 ans sont le reste, vous savez, 30%, donc en général, c'est une épidémie très très sexuée. C'est sûr, dans notre région.
La pauvreté induite par le COVID a aggravé la situation, le taux de chômage sud-africain ayant atteint un record de 35% en mars. L'enquête de l'ONU a montré que 15% de femmes sud-africaines de plus ont déclaré avoir recours au travail du sexe ou au sexe transactionnel avec des soi-disant bienfaiteurs pour gagner leur vie. Nonlanla Mazalemi, agent de santé communautaire, explique.
C'est un vieil homme, un homme plus âgé qui sort avec des jeunes filles et puis il leur donne de l'argent en échange de sexe.
L'ancienne travailleuse du sexe affirme qu'elle était encore enceinte lorsqu'elle a découvert qu'elle était séropositive et a rapidement cessé cette activité. Son bébé est né séronégatif. Elle-même prend maintenant des ARV, des pilules antirétrovirales, quotidiennement. L'Afrique du Sud prévoit de déployer l'année prochaine de nouveaux ARV injectables bimensuels pour faciliter la prévention et le traitement. Jenny Marshall est infirmière VIH pour adolescents.
Je pense que cela va changer la donne et quand je parle aux patients, ils affirment qu'ils l'attendent avec impatience.
L'Agence mondiale United de l'Organisation mondiale de la santé affirme que les filles et les jeunes femmes sud-africaines seront les premières à avoir accès à ces ARV injectables.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore. sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.